Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver et ceux qui nous regardent sur Tech & Co ont peut-être vu, j'ai un magnifique pull de Noël. Alors j'essaie de le décrire pour ceux qui nous écoutent. Il y a un petit Père Noël qui fait du vélo, il y a un sapin, il y a des boules de Noël, c'est un classique. Bref, vous l'avez compris, on approche de la période des fêtes et une première émission aujourd'hui pour vous aider peut-être à faire un cadeau. Vous avez peut-être envie d'offrir un abonnement à une plateforme de streaming à vos proches, à vos amis. Voilà, ça fait un beau cadeau, d'autant plus que les prix ont pas mal augmenté cette année. Donc ça peut faire plaisir, mais lequel ? Quelle plateforme ? Il y en a tellement, on s'y perd. Même moi, je ne sais plus trop à quoi je suis abonné aujourd'hui. On est abonné à des trucs, on l'oublie, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on ne sait plus trop combien ça coûte à force de s'abonner. On est là pour ça aujourd'hui, on a une émission spéciale pour vous aider à vous y retrouver dans cette jungle des plateformes. Et surtout en deuxième partie d'émission, restez bien jusqu'au bout, nos conseils de série de la semaine, qu'est-ce qu'on regarde sur les dites plateformes en question. Un beau programme pour mes invités du jour. Ils sont deux nouvelles têtes dans l'émission, en plus je suis ravi de les accueillir. Je vais commencer par Pierre Monnier, salut Pierre.
Salut Clément.
Pierre, que j'accueille à la fois dans l'émission et dans la team Pull de Noël. Et oui, car lui aussi a sorti, pour ceux qui nous écoutent, un pull avec un splendide renne, hein, c'est ça.
Et oui, et son bonnet rouge. Le classique avec le petit nez rouge, ouais.
Il est magnifique. Alors Pierre, toi tu es journaliste dans la maison, dans les murs, journaliste pour le site de Tech & Co. Ouais. Et tu as notamment, tu es un fin connaisseur des plateformes de streaming et de leurs offres, tu as tout défriché pour nous.
On suit pas mal tout ça, ouais.
Tu vas pouvoir tout nous raconter. Et en face de toi, il y a Benoît Lagan. Salut Benoît.
Bonjour, moi j'ai pas mis le pull de Noël, mais j'ai mis la chemise à carreaux parce que moi je vais couper le sapin.
Voilà, on a un bûcheron avec nous. On est ravis qu'il soit là, Benoît. Merci d'être venu. Benoît, toi, tu es journaliste spécialiste des séries. On peut te voir et t'entendre notamment sur France Inter, Télématin.
Ouais, France Inter le dimanche et à Télématin le samedi.
Et dans l'épisode suivant, aujourd'hui, on est ravis de l'accueillir. Merci à tous les deux d'être là. Et bien, je vous propose qu'on attaque direct. C'est parti pour notre débat de la semaine. Je le disais, donc c'est Noël qui approche, l'occasion d'offrir un abonnement à une plateforme de streaming à ses amis, à sa famille. Lequel ? Eh bien, c'est tout l'objet de cette émission. On va passer en revue les différentes offres payantes. Je précise, il y a des plateformes qui sont gratuites aussi. Elles n'en sont pas moins bien pour autant. Évidemment, on parle parfois, même souvent dans cette émission, d'Arte, de France.tv qui ont des contenus assez géniaux. Mais évidemment, bah, on ne va pas offrir un abonnement à une plateforme gratuite. Ce n'est pas l'objectif. Les plateformes payantes, il y en a plusieurs et la principale, c'est Netflix, évidemment, le géant du streaming qui est un peu le pionnier, même on peut le dire, qui est arrivé en France il y a plusieurs années maintenant, qui est bien établi, qui domine ce marché et qui n'arrête pas de faire évoluer ses tarifs. Alors encore récemment, là, en préparant l'émission, ils ont encore bougé les tarifs, on a revu la préparation avec la disparition d'une offre, la disparition de l'offre essentielle. Pierre, je me tourne vers toi. On en est où des tarifs Netflix aujourd'hui ? C'est quoi les offres de Netflix aujourd'hui ?
Les tarifs Netflix, ils n'arrêtent pas de bouger. On a eu une petite augmentation mi-octobre. Hier, la disparition de l'offre essentielle. Donc oui, ça n'arrête pas de bouger. Donc là, aujourd'hui, si on veut s'abonner à Netflix, on peut partir sur une offre avec pub, 5,99€ par mois.
C'est l'offre la moins chère.
C'est l'offre la moins chère pour accéder au catalogue Netflix. Et désormais, il faut payer un petit peu plus cher pour se passer des pubs. On est à 13,49€ sur l'offre standard. Mmh. Et puis, si on veut profiter d'une résolution 4K, là, on passe à l'offre premium 19,90€ par mois.
Donc, effectivement, on est quand même assez loin des tarifs quand Netflix est arrivé en France, qui étaient des tarifs pour la plupart sous les 10€.
Ouais, on avait fait pas mal de comparatifs à Tech & Co et on s'était aperçu qu'il y avait des hausses de plus de 60% sur certaines offres, notamment sur la premium qui a été celle qui a le plus fortement augmenté parce qu'on s'est dit, si les gens veulent payer plus cher pour la qualité, on va un petit peu en jouer et c'est par là qu'on va, qu'on va taper des augmentations. Ouais.
On en a parlé d'ailleurs sur ce plateau de la nouvelle stratégie Netflix qui vise une rentabilité plus régulière, qui a perdu des abonnés, qui les regagne maintenant en empêchant le partage de comptes. Donc les tarifs, Pierre, tu nous les as donnés. Benoît, Netflix, on l'a dit, pionnier du streaming, c'est eux qui ont un peu tout changé. Est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est une plateforme pour laquelle il y a un intérêt à s'abonner ? Est-ce que ça reste une plateforme où les contenus, on connaît les grosses séries, mais est-ce que ça vaut le coup de payer, comme Pierre l'a dit, peut-être 14 voire 20 euros par mois pour cette plateforme ?
Enfin, moi, j'aurais tendance à dire que non, au premier abord. Après, il y a une habitude, en fait, qui se crée avec Netflix. Et il suffit d'en parler avec le voisinage, nos amis, etc. Et on se rend bien compte que Netflix a pris une place à part entière. D'ailleurs, souvent, quand on dit « qu'est-ce que tu as vu comme dernière série ?», en fait, les gens posent la question quelle série Netflix tu viens de voir.
Ouais, c'est un peu the platform to be, quoi.
Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, et moi, je vois combien de fois je dis à mes amis, mais tu sais, tu devrais aller voir ailleurs, tu verrais, il y a des propositions assez géniales. On parlera d'Apple TV, par exemple, mais le fait que simplement Canal ait pris Apple TV, on a vu que tout d'un coup, il y avait des gens qui découvraient les séries d'Apple TV. Alors, pour revenir sur Netflix, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vu que la plateforme doit faire face à la concurrence de plateformes qui sont aussi des studios, du coup, les studios ont récupéré quelques séries qui faisaient un fonds de catalogue intéressant pour Netflix. Alors, il y a encore Friends, mais jusqu'à quand ? C'est l'éternelle question.
Ça pourrait ne pas durer.
Avec l'arrivée de Max bientôt, il se pourrait que ça disparaisse.
Pourrait disparaître.
Donc aujourd'hui, à ce prix-là, on a quoi sur Netflix ? Hormis les créations originales Netflix, qui pour moi ne sont pas inintéressantes, mais ne sont pas encore après... avec tant d'années d'expérience.
Si indispensable que ça.
Mais si indispensable. Et puis surtout, on n'a pas encore très bien compris. À part le fait que si on veut des séries de braqueurs, on en a. Si on veut des séries avec des teen series, on en a. Ou des mini-séries historiques. Grosso modo, là, on a vraiment des lignes assez claires. Si on aime ces genres-là, eh bien Netflix, pourquoi pas. Mais après, on est rarement surpris par ce qu'on voit. C'est-à-dire que, oui, alors il y a toujours de belles séries qui arrivent ici ou là, mais avec la fin de The Crown, est-ce qu'on va avoir de grandes sagas
On en a parlé dans le précédent numéro d'épisode suivant, quid de l'après The Crown pour Netflix, qui était un peu la dernière série phare et identitaire de Netflix.
Donc je dirais que la plus-value de Netflix aujourd'hui, elle est peut-être, et c'est pas anodin quand même, sur ces séries de pays dont on connaît peu les productions. Les séries coréennes, par exemple, c'est vrai qu'ils font un vrai boulot, mais les séries turques, les séries israéliennes, peut-être un bémol sur les séries francophones. Je trouve que moi, j'aimerais beaucoup plus de séries québécoises, par exemple, quand on connaît la profusion de séries québécoises, il y en a peut-être, on pourrait en avoir plus sur Netflix, mais au moins, peut-être que c'est la plateforme où il faut aller si on est avide de découvrir ce que fait le reste du monde.
Finalement, la ligne de Netflix, c'est aussi la quantité, c'est-à-dire que c'est peut-être celle qui propose le plus de choses, et forcément, plus il y a de choses, plus il y a de chances qu'on s'y retrouve quelque part.
Ouais, mais plus on se noie aussi.
Mais plus on va passer une heure à chaque fois ce qu'on va regarder le soir.
Après, Netflix, ils jouent aussi beaucoup sur tu l'as dit, c'est les pionniers. Si tu prends quelqu'un dans la rue, tu lui demandes c'est quoi, cite-moi une plateforme de streaming. Il y a de très grandes chances qu'on cite Netflix et le terme est rentré même dans le vocabulaire.
Oui.
Quand Salto s'est lancé, c'était le Netflix à la française. On parlait un peu hors antenne de jeux vidéo. Bah, quand il y a un catalogue de jeux vidéo disponible, on dit voilà, le Netflix du jeu vidéo. Donc le terme est même ancré et remplace parfois le terme
de
streaming.
C'est vrai qu'ils sont tellement imposés qu'on en oublie parfois qu'il y en a d'autres. On va enchaîner avec Benoît, peut-être le plus gros concurrent, en termes de catalogue, en termes de quantité, c'est Prime Video, la plateforme d'Amazon, énorme acteur économique, technologique. Si on la compare à Netflix, c'est quoi les atouts, les faiblesses de Prime Video ?
Alors, moi, je dirais que l'avantage de Prime Video, c'est d'être presque une plateforme de plateforme. Mais donc, du coup, par rapport au tarif de Prime Video, qui est à 7 euros à peu près.
Ouais, c'est ça, c'est 7 euros. Ouais.
Forcément, si on veut plus, il faut qu'on prenne des passes complémentaires.
Il y a des étages.
Warner, par exemple.
Oui, voilà.
Donc, et quand on regarde la proposition des séries originales d'Amazon, moi, je trouve... qu'à comparer, finalement, Netflix est encore peut-être plus innovante, du moins plus diversifiée. Je trouve que Prime Video, pour l'instant, c'est pas très très clair, notamment dans les productions françaises, par exemple. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses parfois chouettes, mais il y a eu Mixte, par exemple, qui était une très belle proposition qu'ils ont arrêtée, on ne sait pas pourquoi.
On n'a jamais eu de nouvelles de cette série, d'ailleurs.
Escort Boy qui arrive, qui est plutôt pas mal. Enfin, voilà, il y a des choses quand même, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de ligne très claire. Sur Prime Video. Donc,
ça s'illustre même quand tu vas dans la plateforme.
Parce que j'allais dire, l'interface de Prime.
Bah oui, l'interface, t'as l'impression d'être dans un supermarché et tu sais pas quoi choisir. En fait, tout le concept, c'est de faire, donc on l'a dit, 7 euros ou 70 euros si on paye sur l'année.
Ouais. Et pour ce prix-là, on a la base, en fait.
On a la base, en fait, c'est le ticket d'entrée. Après, la grosse force aussi de Prime Video, c'est d'être adossé à Amazon. Et du coup, si on est Prime chez Amazon, on a aussi. Tous les à côté, c'est-à-dire livraison pour nos achats Amazon, du streaming musical, banque
c'est une
de livres numériques.
C'est un écosystème quand même.
C'est assez énorme ce qu'ils proposent pour 70 euros. C'était passé de 50 euros à 70 euros l'année dernière. Et nous, on avait comparé et on s'était dit, en fait, même à 70 euros, ça
reste,
ça vaut largement le coup.
L'une des plus rentables peut-être en termes de quantité. Après, par ailleurs, ce qu'on disait, c'est que il y a des échelons, c'est-à-dire qu'après il y a le Pass Warner avec les séries HBO. Alors combien de temps va durer ce Pass Warner? Probablement pas très longtemps, puisque si Max arrive l'année prochaine, ils vont quand même un peu resiffonner tout ça.
Oui, c'est vrai.
Et après, il y a la Ligue 1 aussi qui se rajoute à ça. Donc, c'est quand même des tickets qu'on rajoute. Voilà. Malgré
après,
tout, si on s'arrête aux séries.
C'est un peu la force de Prime Video, parce qu'en fait, si tu mets tes 7 euros et que derrière, tu vas aller choper un pass pour regarder la Ligue 1 à 15 euros, bah, quand est-ce que tu vas te désabonner, en fait?
Oui.
C'est un
peu
ça, le piège.
Tu enchevêtres des abonnements dans les abonnements.
Tu mets des abonnements dans des abonnements, au final, tu te désabonnes jamais. Et c'est un peu ça, la force qui fait rester sur Prime Video.
Et après, moi, j'ai l'impression qu'en termes de création, c'est vrai que Prime Video, du moins en France, nous a plus montré son désir d'aller sur d'autres domaines que la série, je pense avec LOL par exemple, et donc on arrive, et ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire à avoir avec Prime Video une sorte de supermarché et à la fois une multiplicité de chaînes de télé. Ouais. Dans ce truc-là. Donc, pour répondre
Prime,
à ta...
Prime, c'est pour ceux qui sont un peu organisés, qui savent un peu chercher, qui sont un peu déterminés quand même.
Et donc, peut-être, par rapport à ta question, est-ce qu'il faut offrir ? Moi, je dirais que pour quelqu'un, si on a quelqu'un dans la famille qui a Prime, peut-être lui offrir 6 mois le Pass Warner.
Ouais.
Ça peut être une bonne idée de cadeau.
Lui pimper un peu son abonnement. Voilà. Tiens, voilà, c'est une bonne idée, ça, pimper l'abonnement de quelqu'un qui est déjà abonné à Prime. On a déjà fait 2 plateformes. On va enchaîner la 3e, Disney+, autre mastodonte hollywoodien évidemment, un catalogue de fous, notamment, et c'est peut-être la plateforme idéale pour les familles là-dessus, on va commencer peut-être par les prix cette fois. Disney+, ça donne quoi aujourd'hui en France ?
Disney+, comme Netflix, c'est les deux seules plateformes qui proposent un abonnement avec pub. Mm-hmm. Comme Netflix, 5,99€, on voit un petit peu de pub avant, pendant les programmes. Si on ne veut pas de pub, là, c'est beaucoup moins cher que Netflix. On passe sur une offre standard, c'est 9,99€. Le saut pour supprimer la pub est beaucoup moins douloureux que chez Netflix.
Quand même,
parce que là, avec le move de Netflix de supprimer sa offre
on est quasiment à 10€ de différence chez Netflix.
C'est ça, ouais. On fait 7€ quasiment de jump pour aller supprimer la pub. Après, est-ce que ça vaut 7€ de supprimer la pub sur une plateforme ? Ça, c'est chacun qui choisira. Et puis sinon, pareil, hein, c'est le même standard que Netflix. Si on veut une offre premium avec de la 4K, c'est 12€. Là, c'est quand même beaucoup moins cher.
Donc, c'est quand même globalement moins cher que Netflix, même si les prix ont augmenté cette année et que potentiellement, on voit que Disney Plus est en train de suivre un peu la voie. Les propos du patron Disney Plus sont assez clairs. Il faut que cette plateforme gagne de l'argent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils en sont même assez loin. Malgré tout, ils se reposent effectivement sur ce catalogue qui est très étoffé par ce qu'on connaît. Évidemment, les productions Disney qui sont la base, plus l'univers acquis par Disney, Benoît, il y a Marvel, il y a Star Wars, il y a toutes les franchises, etc. Mais ça va un peu plus que ça va plus loin maintenant.
Oui, c'est-à-dire que si on considère que typiquement Netflix, c'est la bonne plateforme pour ceux qui veulent découvrir les séries du reste du monde, eh bien Disney, si on est toujours un grand amateur de séries, parce qu'on est rentré dans les séries, par les séries américaines notamment, alors c'est sans doute la plateforme qu'il faut avoir, puisque c'est Disney, certes, mais c'est pas que Disney, c'est des chaînes de télévision. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que Disney, aux États-Unis depuis les débuts de la télé, c'est aussi des chaînes.
Des chaînes
ABC,
de télé, bien sûr.
Aujourd'hui, c'est ABC, c'est Fox, c'est FX. Enfin, c'est un énorme catalogue. Du coup, c'est pour la famille, idéalement, mais c'est pas que
Disney,
pour la famille.
Disney, c'est la vitrine.
Voilà.
Mais...
Et moi, qui suis d'une génération née aux séries parce que j'étais biberonné aux séries américaines, pour moi, à titre très personnel, c'est la plateforme que je préfère. Parce que je peux retrouver du X-Files, que j'ai adoré suivre en mon temps. Je peux voir du Malcolm. Je peux regarder les nouvelles productions. Et puis, je peux découvrir les mini-séries du câble américain dont les chaînes appartiennent aussi à Disney.
Notamment FX, effectivement, qui est une chaîne qui
produit... Donc, c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel. Après, si on n'est pas très américano-centré...
C'est un peu plus dur, Disney.
C'est un peu plus dur.
Même il y a des productions françaises.
Même si les productions françaises, à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il faut voir, je trouve que c'est celle qui a la ligne, en termes de production française, la plus claire. C'est-à-dire que, quels que soient les genres que Disney Plus France crée, c'est toujours, notez bien, il y aura toujours un peu une famille dedans, une histoire de famille dedans, qu'elle soit dramatique, qu'elle soit une sitcom, voilà. Et elle épouse ce qui est le reste du catalogue. C'est-à-dire que là, il va y avoir une série en courant 2024 sur Kaiser, ça y est, je ne me souviens plus le titre de la série, bref, sur le monde de la mode.
Sur
Karl Lagerfeld. Et on suit l'histoire, comme dans les biopics, comme il y en a plein d'autres, en fait, sur la plateforme Disney+. Donc en fait, il crée des séries qui ont une ligne française et à la fois qui collent bien au reste du catalogue. Donc c'est plutôt malin, je trouve. Au moins, on sait à peu près ce qu'on va y voir.
Avec des productions qui résonnent, on a parlé de Tout va bien il n'y a pas longtemps dans une émission, effectivement, des productions qui résonnent avec ce qu'on a l'habitude de voir en termes de séries françaises, avec un casting qu'on connaît, effectivement, tu le dis, d'une famille, des problématiques qui nous touchent, qui sont liées aux enfants aussi beaucoup. Donc voilà, beaucoup de choses à voir. Pour les parents qui veulent occuper les enfants, Pierre, c'est pas mal aussi Disney quand même.
C'est pas mal. Tout le catalogue Disney est quand même assez, assez jouissif. Et puis tu dis occuper les enfants. Moi, mon petit kink, mon petit péché mignon le dimanche matin, c'est de retaper les séries Disney Channel. Hein.
Oui. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Ça nous ramène un petit peu en enfance. Avec un chocolat chaud, on est pas mal. Pour Noël, c'est parfait en plus. Hein. Voilà, c'est le planning parfait. On fait semblant que c'est pour les enfants, évidemment.
Oui, c'est ça.
Disney+, donc on a fait le tour. Une bonne plateforme, malgré tout, hein, pour ceux qui veulent découvrir... ou redécouvrir en tout cas les classiques Disney et aussi voilà, ces productions françaises qui sont de plus en plus nombreuses et qui valent le coup d'être vues. On va enchaîner avec Apple TV+, qui est peut-être la moins connue. Quelque part, tout le monde connaît Apple. Mm-hmm. C'est une immense marque, peut-être c'est la plus grande capitalisation mondiale aujourd'hui. C'est inévitable de voir du Apple partout. Et pourtant, en termes de streaming, c'est presque un petit pousset, j'ai envie de dire. C'est le dernier, pas le dernier, mais en tout cas, en termes de part de marché, ils sont tout en bas. Et pourtant, Benoît, moi, je suis abonné à Apple TV+. C'est quand même hyper quali, non?
Ah ben, complètement. Enfin, pour moi, parce que je disais, Disney, c'est très bien par rapport à la pluralité des propositions, on va dire. Apple TV+, c'est effectivement, on est plus dans la mécanique d'une, comme quand on s'abonnait à une chaîne du câble. C'est-à-dire qu'on a, en termes de production, on n'a pas énormément, mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, ça a de la gueule. Et c'est-à-dire que je dirais même que c'est Apple TV+, c'est ce qui ressemble pour moi le plus aujourd'hui à la grande époque quand les networks américains faisaient des séries classe, genre NBC dans les années 90, ou au début de HBO. Donc c'est en gros la rencontre entre NBC et HBO, avec une qualité, puisqu'Apple, ils sont pas cons quand même. On est Apple, on a des beaux produits, des beaux appareils. Donc il faut que visuellement.
Et ils ont des moyens pour produire tout ça.
Voilà, il faut que visuellement, nos séries soient pas cheap, ressemblent à nos objets. Donc, ça a de la gueule. Et scénaristiquement, c'est souvent bien fichu. Et là aussi, où ils sont très forts, c'est qu'ils ont. Ils vont quand même dans plein de genres différents.
Ouais.
Mais quoi qu'on aime. Si on veut du blockbuster, eh ben ça aura de la gueule en termes de blockbuster. Si on veut quelque chose de plus intimiste, alors ça aura de la gueule aussi
oui,
à ce niveau-là.
Ils sont capables de faire à la fois Monarch, la série autour de Godzilla, et Severance, qui est un espèce de petit truc déjanté de SF un peu compliqué.
Qui pourrait être sur le câble.
Ouais, voilà. Il faut quand même s'accrocher pour le suivre.
Ou une comédie genre Ted Lasso ou Shrinking, qui est hyper bien écrite.
Hyper accessible.
Et hyper accessible. Donc en fait, c'est... Enfin, moi, je même quand une série me plaît moins parce que l'univers me plaît moins... En général, quand je sors de l'expérience d'une série Apple TV+, je me dis « bon, ben, j'ai pas perdu mon temps ».
Et c'est peut-être une plateforme qui a un mérite pour ceux qui en ont marre de passer 40 minutes à chercher ce qu'ils veulent regarder. Au moins là, le choix est assez réduit quelque part, ça vous force un peu à faire un choix. Et en général, c'est des choix qu'on regrette peu. Certes, il n'y a pas 75 possibilités de séries, il n'y a pas beaucoup de séries étrangères par ailleurs. Il y a quelques séries israéliennes, je crois, j'ai vu quelques séries hispaniques, mais... Mais ça permet au moins de se focus peut-être sur quelque chose.
C'est peut-être le petit bémol, comme je disais, pour ceux qui ont Netflix et qui aiment aller voir des séries turques, israéliennes, du monde entier, québécoises, etc. Là, forcément,
on découvre moins.
C'est très américain. Voilà.
Mais c'est très bien produit. Ouais. Pour un prix, Pierre,
c'est 10 euros.
Ça a augmenté par mois. Récemment aussi, ça a augmenté cette année.
C'est 10 euros par mois, mais en fait, la grande force d'Apple TV+, c'est de proposer toujours des petits abonnements gratuits. Si on achète un iPhone,
dès qu'on achète un produit Apple,
on peut prétendre à 3-6 mois offerts, ça dépend des offres du moment. Mais après, ce qu'on se disait aussi sur Apple TV+, c'est que moi, je trouve que la plateforme pâtit un peu du fait qu'on ne la connaisse pas vraiment.
Voilà.
Parce qu'en fait, tu ne peux pas imposer une série qui te dit « Ah bah forcément, là, je vais m'abonner à Apple TV parce que j'ai envie de voir ça. Mm-hmm. » Benoît, tu évoquais HBO.
Oui.
Ça a été la grande force de OCS, c'est de récupérer le catalogue HBO. Mm-hmm. Et quand on en parlait hors antenne, quand Game of Thrones est sorti, tout le monde voulait voir Game of Thrones. Tout le monde s'est abonné à OCS pour aller voir justement chaque semaine
le nouvel épisode. Ils n'arrivent pas encore à événementialiser leur plateforme, ça va peut-être pas tarder. Mais...
Oui, alors en étant intégré automatiquement via Canal pour les abonnés Canal,
c'est ce que j'allais dire.
Par exemple, le Morning Show, dont nous, aux critiques de série, on parle depuis 3 saisons.
Oui, là, les gens
tout le monde en parlait.
Oui.
Justement, tu as vu Morning Show? Bah oui, ça fait 3 ans que t'en parles.
Tu me fais une transition parfaite, justement, puisque donc on va terminer avec Canal+, la plateforme française par excellence, qui était là bien avant les géants du streaming américain. Canal qui fait en fait plein de packages. pas évident de s'y retrouver, mais il y a plein de choses hyper intéressantes. Pierre, toi, tu as regardé un petit peu ce qu'il y a dans tout ça. C'est quoi ce qu'il y a de plus intéressant? Guide-nous dans la jungle de Canal+.
C'est vraiment pas évident de s'y retrouver. En fait, Canal+, on va avoir une première offre à 20 € par mois qui passe au bout d'un an à 33 €. Là-dedans, on va avoir Canal+ et Canal+ série. Donc en fait, ça permet quand même de récupérer pas mal de séries qui sont exclusives à Canal+ et qu'on ne trouvera pas forcément ailleurs. Et si on veut le super package, et là franchement c'est l'offre que même moi j'hésite, je ne vais pas trop résister longtemps.
C'est celle qu'il faut mettre sous le sapin de Noël de Pierre.
Je pense que c'est celle qu'il faut mettre sous le sapin, ouais. On est à 25 € par mois pendant un an, puis 39 €. Mais là on a Canal+, Canal+ série, Apple TV+, Disney+, Netflix, OCS, Paramount+.
Oui, là, c'est l'intégral.
Si vous voulez tout voir, en vrai, il n'y a pas vraiment d'autre choix à faire.
Et effectivement, ça reste ce qui est plus intéressant, de mettre un petit peu un pied partout. Il ne faut pas avoir peur d'avoir trop, par contre. Ouais. Mais...
Après, c'est là la difficulté. C'est-à-dire que autant c'est très simple quand on a un abonnement Netflix, Disney, Paramount tout seul, d'aller dans mon compte et me désabonner, et à la fin du mois, ça s'arrête.
Ouais.
Autant là, il y a des possibilités, en fait, Canal, et c'est un peu comme Prime, d'être une plateforme des plateformes.
Oui.
Et donc, il y a la possibilité, quand on va sur son compte client, de se rajouter peut-être telle ou telle plateforme en plus dans le bonus. Et on peut se désengager à tout moment, sauf que c'est plus compliqué.
C'est un peu plus technique.
Les offres que j'ai évoquées, c'est des engagements de 2 ans. Ouais. Et moi, je me suis aperçu il y a 2 ans, j'ai pris Canal+. On s'est aperçu qu'en fait, l'abonnement Disney+ qui était offert avec, à la fin de l'engagement des 2 ans, ça a sauté. Donc en fait, le risque.
Ah oui, donc
et ça, j'ai fouillé dans les petites lignes, on l'a pas trouvé. Le risque, c'est que au bout de 2 ans, on se retrouve juste avec Canal+ et Canal+ série. Voilà.
Pas évident. Donc on a déjà fait un bon tour, un peu s'arrêter là pour passer à la suite. Il y a une plateforme dont on n'a pas parlé, je la mentionne juste, c'est Paramount+. Pourquoi on n'en a pas parlé? Parce que si vous êtes un fidèle de l'épisode suivant, vous savez que la semaine dernière, on a fait une émission spéciale consacrée au 1 an de Paramount+ en France. Donc si vous voulez tout savoir sur cette plateforme, le prix, le catalogue, foncez sur le site de Tech & Co pour voir l'émission en replay. Nous, on a fait un bon tour déjà des plateformes. On va vous dire ce qu'il faut regarder dessus. 2 séries à regarder dessus, c'est les séries de la semaine. Maintenant que vous savez ce que vous allez offrir comme cadeau de Noël sous le sapin, qu'est-ce qu'on regarde dessus? On va commencer par une série sur Netflix, Pierre. C'est pas une série Netflix à la base, c'est une série Netflix vient de récupérer, qui rentre dans son catalogue et qui t'avait particulièrement marqué. C'est Preacher, c'est ça?
C'est Preacher, ouais. C'est sorti en 2016 sur AMC. Ça a été diffusé en France par OCS. Et depuis fin septembre, c'est dispo. Les 4 saisons sont dispo sur Netflix. Le point de départ, c'est un prêtre. Le titre fait assez bien son job pour ça. C'est un prêtre, Jesse Custer, qui reçoit un étrange pouvoir, Genesis, qui est un peu la voix de Dieu. Okay. Avec ça, il peut imposer la volonté suprême à quiconque. Un truc un petit peu dangereux. Le problème, c'est que Jesse Custer, qui est interprété par Dominic Cooper, on l'a vu dans quelques films Marvel, c'est la version jeune du papa de Tony Stark.
Tout à fait.
Voilà. Ça fait du mécanisme pour retrouver le visage. En fait, son problème, c'est qu'il est un peu dans une crise existentielle. Il ne sait pas vraiment comment guider ses paroissiens. Il ne sait pas trop s'il doit rester prêtre, s'il doit retourner à sa vie de criminel d'avant. Et pour compléter le trio de personnages, on a un vampire, Cassidy, qui est joué par Joseph Gilgun. Joseph Gilgun, ça a été un peu, moi, ma grosse surprise de Misfits. C'est le personnage qui est arrivé un petit peu en fin de série parce que l'acteur principal s'était barré. Et l'autre personnage, c'est un personnage féminin, c'est Tulip O'Hare, qui est l'ancienne petite amie du prêtre, qui est jouée par Ruth Negga. Alors, il faut préciser que c'est des très, très bons acteurs, tous. Cassidy dans le côté délirant, Tulip O'Hare dans le côté femme un petit peu meurtrie qui veut récupérer son amour mais qui se fait un petit peu refouler tout le temps. Même Dominic Cooper, il joue très très bien ce mec qui ne sait pas trop où aller dans sa vie. Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup plus, c'est qu'en fait c'est une adaptation d'un comics de DC Comics, donc c'est sur le label Vertigo, le label adulte de Batman et Superman. Ça a été écrit par Garth Ennis, dessiné par Steve Dillon.
Garth Ennis, si je me trompe pas,
On le retrouve dans The Boys. Exactement. Voilà. Donc, si vous avez aimé l'esprit de The Boys...
Un peu irrévérencieux, un peu trash.
Très irrévérencieux, un peu dingue, un peu violent, parfois gore. Bah, là, on s'y retrouve. Si vous avez aimé The Boys, bah, là, c'est plus la critique des super-héros, c'est la critique de la religion aux États-Unis. Donc, c'est... mon petit conseil du jour.
Preacher, donc c'est 4 saisons à voir sur Netflix, ça vient de débarquer dans le catalogue. Et notre deuxième reco, je me tourne vers toi Benoît, non sans une certaine joie, puisque tu vas nous parler de la saison 4 de For All Mankind, c'est sur Apple TV+. Et quand tu m'as proposé ce choix pour ta reco, bah, j'ai un peu bondi au plafond, hein, on va pas se mentir. Moi je vais être dithyrambique, je vais laisser Benoît en parler, je vais vous dire une chose, c'est pour moi la meilleure série des 5 dernières années, ni plus ni moins. Je te laisse la parole.
On n'est pas loin d'être d'accord. Parce que effectivement, on pourrait parler de la dernière saison, la saison 4, je vais en dire un mot.
Qui est en cours de diffusion.
Qui est en cours de diffusion, je vais en dire un mot. Mais puisqu'Apple TV+, personne n'y va.
Allez-y.
Allez-y. Voilà. Et vous avez 3 saisons déjà disponibles, et donc la 4e en cours. Alors, pour pitcher For All Mankind, imaginez, nous sommes en 1969, tout le monde s'apprête à voir le premier pas sur la Lune, For All Mankind, pour toute l'humanité. Donc, les Américains s'apprêtent naturellement, on connaît l'histoire, à mettre le premier pas sur la Lune. Sauf que, badaboum, ce n'est pas les Américains, mais les Soviétiques. À partir de là, toute l'histoire change. Alors, c'est de l'Uchronie, on sait ce que c'est que l'Uchronie, le maître du Haut-Château, par exemple, on sait ce qui est annoncé.
On revisite l'histoire.
Sauf que souvent, dans les Uchronies, du moins en série, quand on revisite l'histoire, c'est pour faire quelque chose d'extrêmement sombre.
Oui, ça se passe très mal.
Or là, ce qui est juste intéressant, et qui est passionnant, c'est de se dire que, certes, les choses vont changer à partir de cette donnée de base. Les Soviétiques mettent le premier pas sur la Lune. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça peut changer en pire? Est-ce que tout d'un coup, la guerre froide va s'accélérer et que donc les blocs vont s'opposer? Ou est-ce que, de façon pragmatique, on va finir petit à petit par s'entendre? Et qu'est-ce que serait la vie, puisque la saison 4 est en 2003? Qu'est-ce que serait la vie en 2003 à partir du moment où ce postulat a changé? Et c'est là où For All Mankind est passionnant, puisque esthétiquement, on est vraiment dans les grandes sagas de l'espace.
Ouais, c'est très beau, hein, par ailleurs. C'est pas cheap du tout.
Pas du tout, du tout. Ronald D. Moore, qui est le créateur de For All Mankind, il a quand même travaillé sur Battlestar Galactica, sur Star Trek Deep Space Nine. Non, enfin bon, l'espace, ça le connaît. Mais ce qui est intéressant du fait de ces séries qu'il a pu signer jusque-là, c'est que là, souvent, quand on regarde Star Trek, on est dans des années très lointaines dans le temps, et on se dit, mais comment ils en sont arrivés là?
Ouais. Et ben voilà, c'est tout le propos de For All Mankind.
C'est ce qu'explique For All Mankind, tout en étant très proche de notre temps. Donc c'est à la fois ça, et à la fois notamment la première saison, on est dans quelque chose à l'esthétique de Mad Men, par exemple. Donc avec quelque chose de vraiment très, très léché. Et ces personnages sont passionnants à suivre, et alors on pourrait se dire c'est un peu rébarbatif. Chaque saison nous fait un saut dans le temps, donc chaque saison une décennie. Et donc nous sommes en 2003 cette fois-ci, et ils inventent un truc que jusque-là ils n'avaient pas traité, puisque Mars et
on va un peu spoiler. Globalement, ça accélère énormément le fait que les Soviétiques la course à l'espace.
Mais bien sûr.
Et encore renforcé, on ne s'arrête pas à la Lune.
À partir du moment où les Soviétiques ont mis le pied sur la Lune, alors les Américains faut aller plus loin. Donc il faut envoyer des femmes dans l'espace, faut aller sur Mars plus vite, etc., etc. Donc on en est là. Et là, ce qui est passionnant, c'est que cette saison, j'en dis pas plus, nous réinvente le conflit social sur Mars.
Ouais, c'est assez.
Et du coup, on a l'impression d'être dans les mines américaines, l'opposition entre la Silicon Valley d'un côté et les mines que l'on ferme au fin fond des États-Unis, mais sur Mars.
Et c'est assez passionnant, en fait. Moi, on va conclure là-dessus, c'est que For All Mankind, c'est un bon mélange d'aventures. Il y a vraiment tout ce côté spatial, le fait de lever la tête vers les étoiles, d'inspirer, etc., avec des personnages, des hommes, de l'humain vraiment très, très fort.
D'où l'humanité du titre. On est vraiment
tous ces personnages qui évoluent au fur et à mesure des années, qui sont joués par les mêmes acteurs, par ailleurs, qui sont grimés. C'est peut-être un peu le seul truc un peu kitsch. Au bout de 40 ans, l'acteur qui en avait 40 et qui joue, enfin, il y en avait 30 qui joue quelqu'un qui a la bonne cinquantaine.
Il fait un peu perfourasse, là.
Voilà, il fait un peu perfourasse. Mais au-delà de ça, ça reste très humain, très intéressant. Et ça pose beaucoup de questions. C'est une sorte, moi, je dis, c'est une espèce de Game of Thrones dans l'espace. Par ailleurs, ça malmène, parce que ça malmène beaucoup les personnages aussi. C'est une saga qui prend pas de gants parfois. Ça se passe dans l'espace. L'espace, c'est dangereux. Donc regardez, For All Mankind, s'il vous plaît. On vous supplie. Vous ne serez pas déçus. Satisfait.
Vous pouvez offrir. D'ailleurs, à Noël.
Offrez Apple TV Plus pour Noël pour que les gens regardent For All Mankind. Offrez d'autres plateformes. Offrez des séries. Regardez des séries, c'est vachement bien. C'est le credo d'épisode suivant. C'est la fin de cette émission. Merci Pierre. Merci Benoît.
Merci Clément.
D'avoir décrypté le monde des plateformes avec moi cette semaine. Joyeux Noël à tous les deux. Joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent.
Joyeux Noël.
Il y aura une belle émission spéciale Noël quand même la semaine prochaine avec encore plus de décors, encore plus de pulls de Noël, je l'espère. c'est ma religion à moi. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis, moi, au prochain numéro. Ciao.